travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau généralisé.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job?
Patati et patata.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Donc on entend, on lit, on le répète, hein, de la part d'un grand nombre de personnes, des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout cela, on demande à notre experte du jour, Caroline Leroy, qui est directrice des RH chez Payfit. Pour introduire Payfit, peut-être, Jérémy ?
Alors, pour ceux qui nous rejoignent, oui, merci Thibaut. Payfit est une licorne française proposant un logiciel dédié à la gestion de la paie et des ressources humaines. Les RH peuvent désormais automatiser certains process RH pour se concentrer sur l'essentiel. Cette année, l'entreprise a levé 90 millions d'euros en début d'année. Félicitations donc Payfit et bienvenue Caroline. Ma première question est une question toute simple. Quelle est l'ambition de Payfit après une levée si extraordinaire en ce début d'année? Quels sont les premiers enjeux, les premiers objectifs?
Bonjour Thibaut, bonjour Jérémy, merci de m'avoir invité. Effectivement, on a levé parce que dans l'hypercroissance et dans le monde de la scale-up, c'est important d'avoir toujours un temps d'avance. Et notre objectif principal, c'est de pouvoir continuer à... pouvoir continuer à avancer sur la chaîne de valeur RH. On est parti de la paye. Aujourd'hui, on est capable de faire de la gestion d'absence, gestion des congés, par exemple, et des notes de frais. Et on a l'intention d'être un fournisseur indispensable pour tout ce qui est autour de la RH, pour les toutes petites entreprises. Donc, principalement... de 1 à 100 salariés jusqu'à 500. On veut vraiment être un acteur incontournable de l'automatisation et de la digitalisation RH au sens large pour faciliter la vie des salariés qui faire en sorte qu'ils soient plus épanouis. Ça va jusqu'à, par exemple, l'avance de paiement. On a aujourd'hui dans notre produit une façon de pouvoir simplifier et rendre plus, donc peut-être parfois moins... compliqué, moins compliqué aussi personnellement de pouvoir faire un don sur salaire, par exemple, ou de pouvoir faire une avance sur salaire. Alors, on sait que c'est des situations qui sont parfois compliquées, où il faut aller demander au RH, il faut avoir un bon formulaire, ça prend énormément. C'est un peu poussiéreux comme sujet, donc on essaie vraiment de simplifier, de rendre moins poussiéreux un certain nombre de process aujourd'hui RH. Et on essaie d'inventer aussi des besoins de demain, parce que finalement, les toutes petites entreprises, c'est un marché dont les besoins sont peu connus en fait en RH.
Alors, quels sont les freins aujourd'hui, parce qu'on est utilisateur de Payfit, quels sont les freins aujourd'hui à l'automatisation de la paye? Qu'est-ce qui bloque encore, selon vous, Caroline, dans justement ces petites entreprises?
Ce qui est compliqué, c'est la partie déclaration. Ça, c'est effectivement parce qu'on a relation avec des organismes publics, parapublics, et donc ça marche dans les deux sens, donc c'est parfois un petit peu compliqué. La paye reste un domaine extrêmement complexe, avec à la fois une multiplicité de conventions collectives, de règles, de codes du travail qui sont tous les ans changés, et un appétit effectivement législatif, on l'a vu avec le Covid, à changer constamment les règles, à les faire évoluer. Donc, ça génère effectivement beaucoup de complexité et donc parfois effectivement un frein à ce qu'on aimerait automatiser.
Est-ce que lorsqu'on est une licorne comme vous, c'est plus facile de recruter? C'est la question que tout le monde se pose parce qu'on parle beaucoup de licorne française, etc., des blablacars. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que vous avez plus de candidatures rapidement, spontanément, à des postes, et je veux dire qualifiées? Parce que c'est bien beau d'avoir des candidatures, est-ce qu'elles sont qualifiées? Est-ce que c'est une vérité ou c'est une légende?
Alors, c'est toujours une question de prospective. Alors déjà, c'est sûr qu'on a une marque employeur qui est, on va dire, assez positive et connue en France, mais dans les pays où aujourd'hui on est implanté, comme par exemple en Allemagne, c'est loin, en toute humilité, d'être le cas. Donc, j'allais dire, on a des problématiques d'attractivité sur des marchés où on est moins connu. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, alors effectivement, d'un point de vue attractivité, on a moins besoin de vendre la marque, mais on n'est pas les seuls scale-up aujourd'hui, ou entreprises en tout cas, à être attractives. Et on voit qu'on a les mêmes problématiques de talent, les mêmes marchés pénuriques, notamment en tech. On s'écharpe pour les mêmes candidats ou les mêmes candidates. Donc, j'allais dire, oui, c'est sûr que ça nous aide à attirer un certain nombre de candidats ou de candidates, mais nos problématiques de marché pénurique, mais aussi d'adéquation avec les valeurs, hein, la culture, on est exigeant là-dessus, reste aussi un enjeu pour nous.
Alors, quels sont vos leviers d'acquisition aujourd'hui ? Est-ce que, comme tout le monde, finalement, vous postez des annonces, vous recevez des CV, ou est-ce que, en tant que licorne, start-up qui réussit, vous avez un autre process qui est mis en place ? Est-ce que vous avez, là aussi, peut-être automatisé les choses sur la partie recrutement ?
En toute humilité, c'est un des champs qu'on doit aujourd'hui professionnaliser. On a une super équipe de recrutement qui fait un énorme travail pour faire en sorte que on abatte des volumes de recrutement importants et qu'on conserve notre identité, c'est-à-dire avoir une expérience très bienveillante auprès de nos candidats, s'assurer qu'ils aient des feedbacks qualitatifs. Voilà, ça c'est vraiment notre trademark. Donc faire que l'expérience candidoise soit la plus bienveillante possible, ça fait partie de nos valeurs. Maintenant, on a des enjeux très très important. Donc on a développé toute une politique de referral et on travaille aussi avec des cabinets. Donc j'allais dire c'est assez classique, mais on aimerait bien continuer effectivement à peut-être pas automatiser, mais en tout cas structurer un peu plus pour être encore plus efficace, et aussi parce qu'on a des enjeux comme beaucoup d'entreprises de diversité, d'inclusion, et si on veut être role model sur ce sujet, parce qu'on est une boîte RH, pour nous c'est important de pouvoir être role model sur un certain nombre de sujets précurseurs RH. Ça veut dire que les scorecards, on est en train d'utiliser les scorecards, on est en train de réduire aussi les hiring process. Donc comment on fait à chaque fois pour être plus efficace, plus lean, comme beaucoup de boîtes plus avancées que nous l'ont fait, mais aussi comment on s'assure de créer l'histoire en fait du D&I en Europe, parce que finalement le D&I en Europe, c'est encore un champ des possibles important, et ça a un énorme impact sur le recrutement. Donc comment on fait en sorte que nos hiring managers soient tous bien formés sur leur biais, comment on fait en sorte que nos process soient justement corrigent le plus possible nos biais, font partie des enjeux importants qu'on va continuer à construire.
Alors merci, oui, mais justement en termes organisationnels, Payfit est organisé comment d'un point de vue RH ?
Alors, on a aujourd'hui trois grandes, on va dire, entités dans l'équipe People. On a effectivement des HRBP, des People Managers qui vont s'assurer nos collaborateurs et nos managers soient le plus épanouis possible, qu'on puisse déployer la roadmap RH comme on l'a définie. On a une équipe de Talent Acquisition qui vient supporter effectivement le business pour accélérer les recrutements et faire en sorte que ça soit donc qualitatif, à la fois d'un point de vue Payfit et d'un point de vue candidat. Et puis on a une troisième équipe qui est une équipe de People Ops qui prend tous les sujets de l'expérience collaborateur et qui vient construire, on fait du build et du run, c'est-à-dire que faut vous rendre compte, moi quand je suis arrivée il y a presque 2 ans maintenant, on n'avait pas de comp policy, on n'avait pas de performance review. On n'avait pas la vie du salarié, alors qu'on était déjà plusieurs centaines de collaborateurs, on était autour des 300. Donc, il a fallu construire l'approche, de se dire qu'est-ce qu'on veut en tant qu'entreprise qui soit le mieux possible pour l'épanouissement de nos collaborateurs, parce que c'est ça notre mission, et qu'est-ce qu'on va mettre en forme en termes de structure, de process, pour faire en sorte que la machine roule, qu'il y ait de l'huile dans les rouages, comment faire en sorte qu'on ait des data et du monitoring suffisants pour être en amélioration continue. Donc ça, c'est cette équipe-là qui s'en occupe.
Concrètement, un employé, un candidat qui postule chez Payfit, il va se retrouver dans un parcours candidat où son expérience est d'aller jusqu'où va l'expérience Payfit finalement. C'est-à-dire, est-ce que je m'arrête au dépôt de CV en tant que candidat et puis derrière, je vais avoir un entretien physique ou alors là, le Covid a considérablement changé les choses et maintenant vous allez jusqu'à la signature du contrat. Vous vous arrêtez un peu avant, peut-être que les entretiens se font en vidéo, mais qu'est-ce que ça a bouleversé vis-à-vis du Covid, votre expérience, votre parcours candidat ?
Ou pas d'ailleurs.
Oui, alors j'allais dire, ça l'a bouleversé, oui et non. C'est-à-dire que le moyen a été bouleversé, donc la manière, le comment on le fait a été bouleversé, bien évidemment, parce qu'on est passé à 100% digital. Et donc c'est sûr que ça change un petit peu la manière de faire. On avait par exemple nos fameux barbecue tests qui étaient pas un barbecue mais qui étaient une manière de rencontrer le candidat de manière un peu plus conviviale avec une rencontre avec nos collaborateurs qui était assez spontanée et c'était quelque chose qui était très valorisé par les candidats et par Payfit. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est plus sur un mix de team, on va dire, digitalisé que cette rencontre physique, évidemment. Donc, on a 100% digital. On avait déjà des contrats totalement digitalisés. Mais non, parce que en fait, ça c'est un peu comme notre façon de travailler. La digitalisation n'a pas changé notre exigence et notre assessment des candidats. On continue à faire des case studies, on continue à avoir des notations, des rankings sur Lever et un certain nombre de steps qui sont très clairs. Donc, je dirais que ça a même été une opportunité pour nous améliorer, pour nous poser des questions. Mais on l'a pas vécu comme un bouleversement, en tout cas stratégique majeur.
Ok. Donc aujourd'hui, chez Payfit, en tout cas, on peut faire ses preuves à distance, on peut être recruté à distance, on peut avoir une intégration chez Payfit à distance. Peut-être même qu'il y a des tutos organisés par des collaborateurs eux-mêmes qui permettent de créer une vie sociale pour le futur salarié. Peut-être que vous en êtes là.
Alors, sur ce sujet, ce qu'on a souhaité garder, parce qu'on n'a pas eu le choix que de faire effectivement des onboardings digitales, on va revenir sur des formats physiques, parce que ce n'est pas parce qu'on est capable d'être en digital qu'on n'a pas envie d'avoir des moments physiques. Ça, c'est important. Et on pense que quand on a un nouveau collaborateur, c'est fondamental d'avoir ces premiers steps qui soient physiques, parce qu'on ne connaît personne, il y a un côté promo, et ça, c'est très simple pour une organisation. Donc, on va recommencer à avoir des onboardings physiques, puisque ça va être possible très rapidement. Maintenant, la phase digitale, effectivement, comment on l'a vécu ? On n'a pas fait forcément beaucoup de vidéos, parce qu'il y avait cette volonté de garder une interaction physique, ça permet aussi de, enfin physique en tout cas on va dire pas préenregistrée avec nos collaborateurs pour aussi garder un temps d'échange, de questions. C'était très important pour nous. C'est pas parce qu'on est en digital qu'on n'est pas humain en fait. C'est cette ambivalence là qu'on veut en fait merger. C'est un peu comme la robotisation, vous voyez. Pour nous c'est un peu la même manière de télétravailler. C'est pas parce qu'on a des robots qu'on ne peut pas être augmenté et que ça ne peut pas être serein. Et c'est un petit peu la même démarche qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est en digital qu'on ne peut pas créer des liens, qu'on ne peut pas avoir des moments physiques dès qu'en tout cas c'est possible. Et c'est pas parce qu'on est en digital qu'on va tout faire de manière automatisée. Donc par contre, oui, effectivement, automatiser une partie du pré-onboarding, on va dire, ou des vidéos à lire, c'est une tendance qu'on est en train de évidemment mettre en place parce qu'il y a par exemple, savoir comment on utilise Slack, bon, effectivement, ou Notion, il n'y a pas besoin d'avoir une interaction live. Mais par exemple, on a le CEO de la boîte qui intervient, on a des meetings importants avec les leaders, par exemple. C'est des moments privilégiés où on peut se présenter, poser des questions, et ça, on veut le garder, que l'on soit en physique ou en digital.
On parle beaucoup de digitalisation, d'automatisation. On a beaucoup parlé, fut un temps, et ça continue, hein, du droit à la déconnexion. Est-ce que justement cette période Covid, vous y avez répondu en partie, mais est-ce que cette période Covid, elle a accentué justement cette ultra-connexion et il y a pour vous, hein, à votre niveau, des actions menées pour faire en sorte que ben, les collaborateurs puissent se déconnecter ou avoir du temps. Justement, vous parliez de revenir à certaines situations physiques pour se voir. Est-ce que ça en fait partie? Est-ce que vous avez un programme spécifique?
Comme toutes les boîtes qui... alors surtout avec des jeunes collaborateurs, quand je dis jeunes, c'est-à-dire des collaborateurs qui viennent d'entrer sur le marché du travail, qui n'ont pas forcément du recul par rapport à ce qui est bien, pas bien, c'est sûr que d'avoir été, on va dire, mis dans le bain tout de suite du télétravail avec des charges de travail parfois importantes, ça a été compliqué sur certaines équipes, sur certains players, bien évidemment. Ça a été un challenge et ça le reste pour nous. Ça le sera moins parce qu'effectivement, il y aura des moments physiques. Mais il y avait aussi, vous rappelez notamment pendant le premier confinement, c'était compliqué d'avoir des moments de déconnexion personnelle. On était extrêmement contraints. Donc j'espère qu'on en est sorti, mais on a eu tout un accompagnement RH et surtout managérial. Ça reste un enjeu pour moi structurel puisqu'on reste en work from anywhere. Donc ça marche bien parce qu'on est une entreprise très flexible. On dit aux collaborateurs, c'est à vous de vous organiser par rapport à votre flexibilité, où est-ce que vous trouvez votre énergie en termes de temps de travail. Donc on est très responsabilisant par rapport à ça. On est très conscient qu'à l'inverse, pour des collaborateurs qui ont peut-être du mal à s'autoriser des choses, qui sont sur des endroits où il y a beaucoup de pression client ou beaucoup de charge de travail, ça reste un enjeu, donc on est en train d'y travailler parce qu'on sait que ça va même rester après le Covid.
Anywhere, mais pas anytime. Anywhere, en fait, donc c'est une partie full remote. Ça veut dire aujourd'hui que vous avez des salariés qui ont décidé, par exemple, de quitter le territoire, de changer de ville. Est-ce que vous avez des cas concrets de gens qui, depuis que vous êtes organisé de cette manière, ont décidé de finalement s'expatrier?
Alors, je vais juste revenir sur deux notions. Alors déjà, pour nous, Work From Anywhere, c'est pas être en full remote. On veut pas être une entreprise full remote. On a défini un cadre souple de principe de vivre ensemble. Un de ces vivre ensemble, c'est de revenir au moins une fois par mois au bureau pour avoir des moments physiques d'échange. Pour nous, ça, c'est important. Donc, vous allez me dire, la définition, elle est un peu poreuse, mais cette notion-là, elle est importante. On veut vraiment que les collaborateurs puissent revenir physiquement régulièrement. Après, aussi, notre distinction, c'est qu'on n'est pas que work from anywhere, on est aussi work from anytime. C'est juste qu'aujourd'hui, légalement, le work from anytime est beaucoup moins puissant que le work from anywhere. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est très compliqué de s'organiser complètement librement quand on est salarié. Mais ça comprend quand même une certaine souplesse par rapport au work from anytime. Et donc, des exemples concrets, oui, effectivement, j'ai un collaborateur dans mon équipe qui est basé à Oscor parce qu'il adore le surf. Donc, il a trouvé un appart là. On a des collaborateurs qui sont à Lyon. On a des collaborateurs qu'on autorise du work from anywhere à l'étranger. Donc, on a régulièrement des collaborateurs qui partent. Alors, évidemment, avec le Covid, ça a été un petit peu restreint, mais dans les périodes où c'était plus, on va dire, souple, les collaborateurs peuvent aller jusqu'à 6 mois à l'étranger. Alors, encore une fois, 6 mois, c'est en fonction des règles locales du droit du travail, parce qu'on est après contraint. Il y a un certain nombre de garde-fous aussi fiscales et surtout au niveau de santé-sécurité qu'on met en place. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a aussi eu des cas concrets un peu difficiles qui nous permettent aussi de mieux gérer et de mieux prévenir. Faire en sorte que le collaborateur... C'est pas que l'entreprise, hein. Évidemment, l'entreprise peut être à risque si on fait n'importe quoi, mais c'est aussi le collaborateur. Donc, on est extrêmement vigilant et on est en train de mettre en place tous les process pour faire en sorte que ça se passe bien.
D'accord, donc si on récapitule, il y a quand même une obligation de votre côté, donc c'est un responsabilisant à la fois comme concept et à la fois une obligation de pouvoir se revoir socialement pour retisser le lien, ou en tout cas ne pas le perdre.
Un ancrage.
Ouais, un ancrage. Donc vous avez conservé des bureaux, est-ce que vous avez conservé des bureaux à taille réelle ou vous avez changé de bureau pour, puisque vous avez un roulement entre collaborateurs et ça ne nécessite pas autant de place, ou les mêmes bureaux dirons-nous, mais... Vous avez modifié ça ou pas?
Complètement, mais nous, on a fait un peu un pied de nez à la stratégie ambiante. On a pris des bureaux plus grands et pas que. pour des raisons d'hypercroissance aussi, parce qu'on recrute beaucoup, donc évidemment, on a anticipé ce scénario-là. Mais finalement aussi parce que, encore une fois, on a toujours essayé de faire de cette crise une opportunité. On s'est dit, bah, on a besoin aussi d'être attractif, on a besoin d'avoir des bureaux un peu waouh si on veut justement incarner ce modèle un peu hybride où on encourage le télétravail, mais on encourage aussi nos collaborateurs à venir régulièrement. Et si on les encourage à venir, il faut que l'endroit il soit agréable, il soit bien placé, il soit waouh. On est vraiment dans ce phénomène, de toute façon, un peu aujourd'hui, j'allais pas dire consumérisme, mais presque en fait. Enfin, l'entreprise doit être attractive à tous les niveaux. Et le bureau en fait partie, si on veut que nos collaborateurs reviennent.
L'entreprise devient, Caroline, un produit presque dans les mots. C'est-à-dire qu'en fait, on peut la consommer au même titre qu'on consommerait un produit.
C'est un peu la marque employeur, là, pour le coup. Hein. Vous, votre marque employeur, c'est de promouvoir un lieu plus attractif et de faire un pied de nez un peu à la situation et prendre plus grand. Ça fait partie de la marque employeur. Ouais. Cette consommation-là comme un produit, comme dit Jérémy, c'est un élément de l'attractivité qui est non négligeable pour vos futurs collaborateurs.
Oui, j'aime pas cette notion de produit, de résumer l'entreprise à une notion de produit. Je pense que c'est plus une identité et effectivement dont la marque employeur vient que la marque employeur vient épauler. Je dis ça parce que notamment. On parle souvent de culture, une culture c'est intangible, une culture c'est une identité, une culture ça se vend pas, ça peut s'expliquer, effectivement ça peut se communiquer, mais ça se vend pas, donc c'est la limite. Et puis ça c'est très important aussi, parce que quand on dit consumérisme, c'est pour ça que je fais attention quand je dis ce mot, il faut effectivement, il y a cette tendance là aujourd'hui sur le marché, il y a des fortes individualités, il y a des fortes demandes d'individualité dans l'entreprise aujourd'hui, qui vont jusqu'à remettre en cause les modèles de salariat, on le voit aujourd'hui dans les prédictions. Mais il y a cette notion de vivre ensemble qui est très très importante pour nous. Et si on veut aujourd'hui que les salariés ne soient pas que des individualités mis bout à bout, c'est à travers le socle de la culture, c'est à travers le vivre ensemble qu'on peut faire en sorte que ça reste une ambition collective. Et donc par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui dans notre politique de Work From Anywhere, si un collaborateur veut aller à la piscine, par exemple, de 11h à midi, il a le droit de le faire. Il peut le faire. Il en discute avec son manager. Mais si c'est cohérent avec son job, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'impact sur le client, s'il n'y a pas d'impact sur les autres membres de son équipe, il peut tout à fait décider parce que, par exemple, à Paris, les heures d'affluence, c'est pas très agréable, c'est pas très épanouissant d'aller à la piscine peut-être à midi et demi. Donc, il a le droit d'y aller à 11h. Mais ça dépend de son contexte. Donc, si, par exemple, il a des clients, il est au customer service ou il est en sales, on va fortement le challenger parce que c'est une aire d'affluence pour les clients. Donc, a priori, ça va impacter ses clients, ça va impacter l'entreprise. Donc, ça sera plutôt non dans ce cas-là. Mais on essaye de faire vraiment réfléchir les collaborateurs sur l'impact aussi de leurs actions, de leurs décisions et de leur faire comprendre que leur propre épanouissement passe aussi par... celui des autres et c'est ça que je veux dire quand je parle de collectif.
Ok, super. Et la productivité dans tout ça, vous chez Payfit, au final on peut se dire work anywhere, c'est un super message, c'est vachement intéressant, j'ai envie de postuler quand je sors de l'école, etc. Mais est-ce que Payfit a les mêmes attentes que toutes les entreprises sur la partie productivité? Comment vous vous positionnez là-dessus? Et finalement, quel lien, quelle est la différence sur le management par rapport à des entreprises qui seraient peut-être moins dans cette logique d'individualité?
Oui, alors c'est vrai que déjà on part sur un postulat de faire confiance, de faire confiance à nos collaborateurs, de faire confiance à nos managers parce qu'ils sont clés dans ces dispositifs-là. Ça, c'est une première chose. En termes de productivité, c'est un peu comme, je vais faire la même réponse que pour le recrutement. En fait, ça ne fait que déplacer un problème. C'est-à-dire qu'un collaborateur aujourd'hui qui est démotivé et qui n'est pas performant dans une entreprise en physique, s'il n'a pas envie de travailler, il ne travaillera pas. C'est-à-dire les problèmes de performance seront les mêmes. C'est la qualité du manager et la clarté des attentes qu'il y a sur un poste et la manière dont c'est ensuite accompagné. Qui fait en sorte que le collaborateur peut réussir et peut être performant. Et pour nous, ça vaut en physique comme ça vaut en digital, en fait. Donc, ça ne change pas fondamentalement notre vision et notre approche sur la performance ou la productivité. Par contre, effectivement, ce qui change, c'est que la flexibilité amène de l'épanouissement, amène de la performance. Ça, c'est les collaborateurs qui nous le disent. En grande majorité, ça leur apporte plus de productivité. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça oblige les managers à être de meilleurs managers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un manager, il ne peut plus aller dire à Pierre, Paul, Jacques, « Ah tiens, j'ai besoin de toi immédiatement, viens là, tiens, qu'est-ce que tu fais ?» C'est effectivement moins spontané. Mais ça oblige le manager à être beaucoup plus organisé dans ses one-to-one, dans la manière dont il va mettre en place les rituels d'équipe. Parce que si on a un player qui est à Brest, l'autre qui est à Paris et l'autre qui est à Nantes, bah, ça veut dire qu'il faut s'organiser pour se voir. Et donc, ça veut dire que quand on se voit avec des vrais sujets, il y a un vrai agenda, il y a des vrais moments de convivialité. Ça demande de l'organisation. Donc, pour nous, en fait, ça demande de l'accompagnement, évidemment, à ces managers. Mais pour nous, on pense que c'est en fait une opportunité pour être un meilleur manager. C'est un vrai parti pris.
Est-ce que, Caroline, en fait, il y a un sujet qui vous tient à cœur, sur lequel, en fait, vous voulez insister ? Est-ce que vous voulez parler d'une partie politique, diversité, inclusion, QVT, ces choses-là ? Ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qui vous paraît essentiel, en fait, chez Payfit ?
Oui, bien sûr. Je l'ai un petit peu dit tout au long de l'interview. Notre vision d'entreprise, c'est d'être une source d'épanouissement au travail pour tous les collaborateurs, c'est-à-dire ceux de nos clients, mais ceux peut-être de nos prochains clients. Et donc, on a l'ambition d'être rôle modèle et d'être un influenceur, en fait, sur les pratiques RH d'aujourd'hui, de demain. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a une politique work from anywhere qui est très ambitieuse. On donne beaucoup de flexibilité, beaucoup de responsabilité à nos players et à nos managers. Ça aussi, c'est quelque chose qui est pas qu'on voit pas partout. Et on a envie d'être précurseur et d'être innovateur dans les pratiques RH sur plein de sujets. Aujourd'hui, on l'est pas sur tout, mais c'est notre ambition de demain. Et il y a un point qui est important aussi, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la liberté, la productivité, l'épanouissement. Ce sont pas des notions antinomiques. Et pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans la flexibilité, dans la confiance, qu'on n'est pas extrêmement structuré et extrêmement exigeant. Et ça demande, en fait, au contraire, de se remettre énormément en question, d'être très data-driven, de regarder ce qui se passe, de monitorer. Et c'est la force, au contraire, de la machine derrière, hein, du back-office, qui fait que ça peut être pertinent demain. Donc, si je peux donner en tout cas un conseil au RH, c'est que un, c'est pas antinomique, et deux, oui, effectivement, c'est la même exigence que pour n'importe quel process qu'on veut professionnaliser.
Bon, en tout cas, j'espère que le conseil sera pris. On a été ravis de vous avoir, Caroline Leroy, je répète, DRH chez Payfit. C'était très intéressant. On espère se reparler bientôt de l'évolution, et en tout cas, encore félicitations à cette pépite française qui ne cesse de grossir.
Travailleuses, travailleurs.
1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau général.
Quoi qu'il en coûte.
Qui décrochera le job ?
Patati et patata.